En 2004, Maurice écrivit sa meilleure lettre, en retravaillant quatre versions à la virgule près. Elle était destinée à Cora Ann Hooper. Dans cette lettre, il lui disait vivre dans un terrible remords de ce qu'il avait fait et promettait que si la conditionnelle lui était accordée, il passerait le restant de ses jours à expier son crime, commis lors d'un trou noir causé par l'alcool. « J'assiste ici aux réunions des AA quatre fois par semaine, écrivit-il, et je parraine actuellement 6 alcooliques et toxicomanes en voie de guérison. Je continuerai ce travail dehors, au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Saint-Patrick dans le Northside. J'ai eu une prise de conscience spirituelle, Madame Hooper, et j'ai laissé Jésus entrer dans ma vie. Vous comprendrez à quel point ceci est important, car je sais que vous aussi, vous avez accepté le Christ, notre Sauveur. Pardonne-nous nos offenses, a-t-il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Me pardonnerez-vous un jour de vous avoir offensé? Je ne suis plus l'homme qui vous a causé tant de souffrances ce soir-là. J'ai eu une conversion d'âme. Je prie pour que vous répondiez à ma lettre. » 10 jours plus tard, sa prière fut exaucée. Aucune adresse de retour sur l'enveloppe, seulement C.A. Hooper, soigneusement écrit au dos. Maurice n'eut pas besoin de l'ouvrir. Un maton chargé de vérifier le courrier des prisonniers au bureau de la réception s'en était déjà occupé. Un seul feuillet de papier à lettres à bordure irrégulière avait été glissé à l'intérieur. Dans les coins supérieurs droit et inférieur gauche, des chatons tout poilus jouaient avec des pelotes de laine grise. Aucune salutation. Une seule phrase manuscrite au centre de la page. « J'espère que vous croupirez encore longtemps là où vous êtes. » La salope se présenta à l'audience l'année suivante, les jambes boudinées dans des bas de contention et les chevilles débordant de ses chaussures orthopédiques. Elle ressemblait à une variante trop grosse et vengeresse d'une hirondelle de Capistrano, version pénitentiaire. Elle raconta son histoire une fois de plus, et une fois de plus, la mise en liberté sous condition fut rejetée. Maurice était un prisonnier modèle, et à présent, il ne restait plus qu'une seule objection à sa libération sur le papier vert. La victime déclare souffrir encore des séquelles psychologiques et physiques de son agression. Maurice se persuada que cette connerie, c'était des conneries, et retourna dans sa cellule. Pas exactement un penthouse, juste un 5 mètres carrés, mais au moins il avait des livres. Les livres étaient son évasion. Les livres étaient sa liberté. Il s'allongea sur sa couchette, imaginant à quel point ce serait jouissif de passer 15 minutes seul à seul avec Cora Ann Hooper et un cloueur à air comprimé. Maurice travaillait à présent à la bibliothèque, ce qui était une formidable amélioration. Les matons se fichaient bien de savoir comment il dépensait sa paye dérisoire. Ce fut donc sans aucun problème qu'il s'abonna à l'American Bibliographer's Newsletter. Il se fit aussi envoyer un certain nombre de catalogues, qui eux étaient gratuits, de négociants en livres rares. Il y voyait fréquemment des romans de Rothstein à des prix toujours plus exorbitants. Maurice s'aperçut qu'il suivait sa cote avec autant de ferveur que certains prisonniers fans de sport suivaient leur équipe favorite. La plupart des écrivains perdaient de leur valeur après leur mort. Mais une poignée de chanceux grimpait dans les ventes. Rothstein était de ceux-là. De temps à autre, Maurice tombait sur un Rothstein signé. Dans le catalogue Bowman de Noël 2007, un exemplaire du Coureur, dédicacé à Harper Lee, un exemplaire dit « d'association », c'est-à-dire dédicacé aux proches d'un auteur, s'était vendu à 17 000 $. Maurice garda aussi un œil sur les journaux locaux durant ses années d'incarcération. Puis, à mesure que le 21e siècle opérait sa révolution technologique, sur différents sites Internet. Le terrain entre Sycamore Street et Birch Street était toujours empêtré dans un bourbier juridique interminable, et Maurice s'en réjouissait. Il sortirait un jour, et sa malle l'attendrait, fermement enracinée sous l'arbre surplombant la berge. Que les carnets puissent à présent valoir une fortune importée de moins en moins. Il supposait que du temps où il était jeune, il aurait su profiter de toutes ces choses auxquelles les jeunes hommes aspirent quand ils ont encore les jambes solides et les couilles bien suspendues. Les voyages et les femmes, les voitures et les femmes, les grandes baraques comme celle de Sugar Heights et les femmes. Maintenant, il rêvait à peine de ces trucs-là. Et la dernière femme avec qui il avait eu une relation sexuelle conservait un rôle clé dans son incarcération prolongée. L'ironie de la chose ne lui échappait pas. Mais ça allait. Tout partait en eau de boudin en ce bas monde. Tu perdais de la vitesse, tu perdais la vue, tu perdais même ton putain d'électrique bougalou. Mais la littérature, elle, restait éternelle. Et c'était ça qu'il attendait. Une terre encore inexplorée, que seul son créateur avait foulée. Et s'il devait attendre d'avoir 70 ans pour l'explorer, soit. Il y avait aussi l'argent, toutes ces enveloppes de liquide. En aucun cas une fortune, mais tout de même un joli petit pécule. Au moins, j'ai un but, se disait-il. Combien ici peuvent en dire autant? Surtout une fois que leurs cuisses deviennent flasques et que leur queue se lève seulement quand ils ont envie de pisser. Maurice écrivit plusieurs fois à Andy Hallyday, qui avait maintenant sa propre librairie. Maurice l'avait appris par l'American Bibliographer's Newsletter. Il savait aussi que son vieux pote avait déjà eu des emmerdes, au moins une fois, pour avoir essayé de vendre un exemplaire volé du livre le plus connu de James Agee, mais qu'il était passé entre les mailles du filet. Dommage. Maurice aurait adoré accueillir cette tafiole parfumée à l'eau de Cologne à Waynesville. Il connaissait tout un tas de sales types qui lui auraient botté le cul avec grand plaisir de la part de Maury Bellamy. Mais c'était qu'un fantasme. Même si Andy avait été reconnu coupable, il aurait probablement juste écopé d'une amende, et c'est tout. Au pire, il aurait été envoyé au country club, à l'ouest de l'État, réservé aux voleurs en col blanc. Aucune de ses lettres à Andy ne reçut de réponse. En 2010, son hirondelle personnelle revint une nouvelle fois à Capistrano, vêtue d'un tailleur noir, comme si elle se rendait à ses propres obsèques. Qui tarderont pas à arriver si elle perd pas du poids, pensa Maurice vicieusement. Les bajoux de Cora Ann Hooper pendouillaient maintenant de chaque côté de son cou, tels des crêpes de chair. Ses yeux étaient presque entièrement enfoncés dans des poches de gras. Sa peau était cireuse. Elle avait remplacé le sac à main noir par un bleu, mais tout le reste était idem. Cauchemar, thérapie sans fin, vie ruinée à cause de l'horrible bête qui avait surgi cette nuit-là de la ruelle, et ainsi de suite, bla bla bla. Mais tu l'oublieras jamais à la fin, ce viol pourri, pensa Maurice. Tu la tourneras jamais, la page? Maurice regagna sa cellule en pensant. Cette connerie, c'est des conneries. Putain, c'est des grosses conneries. C'était l'année de ses 55 ans. Un jour, en mars 2014, un geôlier vint chercher Maurice à la bibliothèque où il était en train de lire Pastorale américaine pour la troisième fois, installé au bureau principal. De l'avis de Maurice, c'était de loin le meilleur livre de Philip Roth. Le geôlier lui dit qu'il était attendu à l'administration. Pourquoi ? Demanda Maurice en se levant. Un petit passage par la case administration, c'était généralement pas une bonne nouvelle. Souvent, c'était des flics qui voulaient que tu balances quelqu'un et qui te menaçaient de toutes sortes de trucs sordides si tu refusais de coopérer. « Commission des libérations conditionnelles. » « Non, » dit Maurice. « C'est une erreur. Je passe pas devant la commission avant l'année prochaine. Je fais juste ce qu'on m'a demandé de faire, ok ?» répliqua le geôlier. « Si tu veux pas que je te signale, trouve quelqu'un pour te remplacer et bouge ton cul. » La commission, composée maintenant de 3 hommes et 3 femmes, étaient réunis dans la salle de conférence. Philip Downs, l'avocat principal de la commission, faisait le 7e mercenaire. Il lut une lettre de Cora Ann Hooper. Une lettre merveilleuse. La salope avait un cancer. C'était une bonne nouvelle, mais ce qui suivait était encore mieux. Elle abandonnait toutes ses objections à la mise en liberté sous condition de Maurice Bellamy. Elle disait être désolée d'avoir attendu si longtemps. Downs lut ensuite une lettre du Midwest Art and Culture Center, rebaptisée le MAC par les gens du coin. Ils avaient embauché beaucoup de détenus en conditionnel au fil des années, et ils étaient disposés à prendre Maurice Bellamy en tant qu'archiviste et opérateur informatique à mi-temps, à compter de mai, si bien entendu la libération conditionnelle était accordée. Au vu de votre conduite exemplaire au cours des 35 dernières années, et au vu de la lettre de Madame Hooper, déclara Downs. « J'ai jugé bon d'avancer d'un an votre demande de mise en liberté sous condition. Madame Hooper nous informe qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, et je suis persuadé qu'elle aimerait mettre un terme à cette affaire. Il se tourna vers les autres membres de la commission. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs ? Maurice savait déjà ce qu'en pensaient ces dames et ces messieurs, sinon il ne l'aurait jamais fait appeler. Ils votèrent à l'unanimité en faveur de la liberté sous condition. « Et vous, Maurice, qu'en pensez-vous ? » demanda Downs. Maurice, d'ordinaire habile avec les mots, était trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Mais il n'eut rien besoin de dire. Il fondit en larmes. 2 mois plus tard, après la réunion de concertation obligatoire avant la mise en liberté, et peu de temps avant son premier jour de travail au Mac, Maurice passa la porte A de la prison de Waynesville et remit les pieds dans le monde libre. Dans sa poche, il avait ses économies de 35 années de travail à la teinturerie, à l'atelier de menuiserie et à la bibliothèque. Un montant de 2 700 $ et des poussières. Enfin, les carnets de Rothstein étaient à sa portée.